Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Cette semaine, on va faire un petit tour du côté de Netflix pour le film Tyler Rake avec Chris Hemsworth. Et je suis accompagné de mon ami Arnaud Bordas. Alors Arnaud Bordas, c'est plutôt l'exégèse des grosses barbes, hein, je crois. Je pense qu'on peut le dire.
Surtout vu le confinement là, en ce moment, c'est plutôt la grosse barbe. Ouais.
Voilà. Donc effectivement, c'est un épisode spécial confinement, hein, comme vous l'aurez constaté. Et en fait, il faut prévenir quand même que peut-être on va rentrer un petit peu dans les détails de ce film qui est disponible sur Netflix. Donc on va peut-être un petit peu spoiler pour les besoins de notre podcast. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud?
Oui, je pense qu'on va, on va évoquer quelques points de l'intrigue importants, mais bon, après, c'est pas non plus le limier de Mankiewicz, hein, le film. Hein.
Non, mais certes. Alors, il y a quand même quelques petites surprises, on va dire, entre guillemets, quoi.
Oui.
Premièrement, en fait, est-ce que tu peux un petit peu résumer le projet, Arnaud, nous expliquer de quoi ça parle et c'est produit par qui, c'est réalisé par qui?
Alors, Tyler Rake, donc, qui est le titre français, hein, le titre original, c'est Extraction. Donc, c'est le premier film d'un cascadeur, Sam Hargrave, qui auparavant a notamment bossé beaucoup sur les Marvel. Et hop, j'ai ma transition, puisque le film est écrit par Joe Russo, l'un des deux frères qui ont bossé notamment sur les Avengers, et il est également produit par lui et son frère Anthony Russo, je crois que c'est ça, c'est Anthony il me semble. Voilà, c'est tiré d'ailleurs d'un comics écrit par Joe Russo. Donc je pense que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur depuis un petit moment, qu'ils souhaitaient vraiment adapter. C'était une création à eux, quoi, pour une fois. Voilà, et donc à partir de là, ils ont voulu se faire ce film d'action qui s'inscrit un peu dans la vague de tous ces films d'action un petit peu hardcore, avec la violence assez décomplexée. Et je pense notamment à beaucoup les films d'action indonésiens dans la lignée de The Raid, hein, dont on a eu quelques exemples notamment récemment. Voilà, et donc le pitch en gros, c'est l'histoire d'un... je crois que c'est un ancien des forces spéciales ou un de ces genres de corps d'élite là, qui agit comme mercenaire maintenant. Et il est chargé d'exfiltrer un gamin. Alors ça se passe entièrement, le film se passe entièrement au Bangladesh. Hein. Je crois que c'est pas tourné au Bangladesh, mais c'est censé se tourner. L'intrigue est censée se dérouler au Bangladesh. Et donc il est chargé d'exfiltrer
une petite scène en Australie au début. Hein. Il y a une petite scène en Australie au début.
Oui, la scène du saut, là, ouais. Il est chargé d'exfiltrer un gamin qui est le fils d'un chef de gang, hein, qui règne sur la ville. En gros, c'est ça sa mission. Et il va pas mal galérer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de groupes antagonistes qui vont se dresser sur son chemin. Et voilà, mais en gros, c'est un pitch assez basique et qui est un peu le prétexte du défouraillage non-stop avec fusillade nourrie, baston mano à mano, etc. etc. Voilà.
Alors c'est marrant que tu le compares en fait à des films comme The Raid, parce que, alors peut-être pour la violence exacerbée, mais je pense que c'est surtout parce qu'on n'a plus tellement l'habitude dans les films d'action actuels américains, en fait, d'une représentation de cette violence-là. Et moi, pour moi, ça s'inscrit totalement dans la mouvance en fait des films d'action qui sont faits par les cascadeurs, justement. Et je pense à John Wick notamment. Alors pas forcément, encore une fois, dans l'univers en fait qui est décrit, hein. mais plutôt dans la façon d'envisager l'action et la façon de la mettre en scène, presque, j'ai envie de dire, au détriment du reste du film, quoi. C'est-à-dire que, bon, John Wick, c'est carrément l'exemple terminal, hein. C'est, en toute honnêteté, on va peut-être pas se faire des amis, mais ça raconte pas grand-chose, hein. Et quand je dis ça raconte pas grand-chose, je le dis en connaissance de cause, sachant que c'est peut-être quelque chose qui a été reproché à une époque à des films de John Woo, par exemple, comme À toute épreuve. Hein. Et moi, je fais vraiment la distinction entre les deux. Je pense que, justement, À toute épreuve, ça raconte vraiment une histoire, là où John Wick, pas du tout, quoi. Dans le cas de Tyler Rex, ça raconte une histoire, on va dire, mais ça raconte une histoire finalement assez légère, comme tu le dis, qui est un gros prétexte, en fait, pour aborder la baston. Alors ça, je suis pas sûr que ça vienne automatiquement des frères Rousseau, pour le coup. C'est-à-dire cette façon d'aborder l'action. Je pense que je mettrais plutôt ça sur le compte du cascadeur, quoi. Et notamment, en fait, dans certains passages un peu spécifiques. Alors, il y a notamment un grand morceau de bravoure, entre guillemets, en fait, un plan séquence de 11 minutes 30, je crois, en plein milieu du film, qui est bourré de raccords numériques, parce que c'est, je pense, totalement impossible, physiquement impossible de faire... une scène comme ça sans avoir recours à plusieurs raccords numériques. Le problème, en fait, de cette scène, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que je trouve ça extrêmement visible, extrêmement grossier, non pas à cause de l'emploi du numérique, hein, par exemple, mais surtout, je trouve, à cause de la façon dont la caméra, finalement, adopte différents points de vue. Et moi, je trouve, perd le spectateur, finalement, dans ce que ce passage raconte, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Évidemment, hein, y a un problème de mise en scène, mais en fait, qui est lié un petit peu à ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, John Wick rentre dans ce cadre, hein, mais moi, j'évoquais les films à la The Red. Y en a eu d'autres, hein, dans la foulée aussi. Mais ces films, ce qu'ils ont de spécifique, c'est que souvent, ce sont des grosses démos de cascadeurs, hein, plus ou moins spectaculaires, quoi. Parce que The Red, c'était ça, hein, je veux dire, en dehors des cascades, il y a zéro intérêt dans le film, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de scénario, les acteurs jouent comme des manches, enfin, voilà, c'est vraiment, moi, je les ai regardés, ces films, parce que j'ai quand même une curiosité à la base pour le métier de cascadeur, les performances de cascadeur, et puis tout le monde aime ça en général, de toute manière, je pense, mais souvent, ça se limite à ça, et alors, le propre, justement, de beaucoup de ces films, notamment dans The Red 2, il y avait des plans séquences comme ça, de poursuite en bagnole, baston, tout ça, assez compliqué à mettre en place, c'est que le meilleur moyen de mettre en valeur ces performances de cascadeurs, c'est souvent le plan séquence, quoi. Pour montrer justement toute la palette de leurs talents martiaux se déployer sans coupure, quoi, sans d'effet de cinéma, presque, pour ainsi dire, quoi. Si le plan séquence reste quand même un effet de cinéma à lui tout seul, mais donc voilà, et outre le fait aussi qu'il y a des éléments contextuels, hein, je pense que situer entièrement un film, je parle de Tyler Rake, dans un environnement comme celui du Bangladesh, hein, dans des bidonvilles, dans un univers assez dur et crasseux, tu vois, quoi. On a l'impression qu'il y a une mode ces dernières années de films d'action comme ça, avec des stars occidentales plongées dans des univers un peu de pays du tiers-monde, comme ça. Il y a une sorte de fascination, d'exotisme aussi, et ça, on le retrouve jusque dans des productions de seconde zone, comme les Scott Adkins qui pullulent sur Netflix et autres plateformes, mais je pense que ça, c'est des trucs qui viennent aussi à la base de Taken, quoi, tu vois. Moi, Tyler Rake, ça me fait penser aussi à ça, une sorte de Taken-like encore, avec une star comme ça, Liam Neeson ou Chris Hemsworth, que tu plonges dans un pays un peu exotique que les spectateurs américains ne connaissent pas et qui a son côté un peu effrayant, un peu underground, à la recherche d'un, ou alors pour protéger un gamin, hein. Le gamin, c'est souvent le MacGuffin, quoi, de ce genre de film, et voilà, donc il y a des rémanences, quoi, comme ça, dans les films d'action de ces dernières années, avec on a parlé des films de cascadeurs, des films à la Taken, tout ça, et finalement Tyler Rake ne fait que surfer sur ces vagues là quoi, voilà.
Ouais, après, moi, je pensais notamment au plan séquence dans la problématique, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est vrai, hein, sur l'emploi du plan séquence pour justement montrer toute l'étendue des capacités des artistes martiaux, des cascadeurs ou des prouesses physiques en fait qu'ils sont capables de faire, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est un plan séquence qui part vraiment à la base de une fusillade qui se transforme en poursuite en voiture, qui finit par dans un accident, qui ensuite, avant, enfin, les personnages continuent à se chercher en fait comme dans un espèce de jeu du chat et de la souris dans un immeuble de bidonville, pour se finir en fait sur une baston de rue en bas, et en fait sur quasiment, enfin, j'ose espérer que c'est un gag, tu vois, parce que c'est deux mecs qui se rentrent dedans à coups de bagnole en fait. Et là-dedans, en fait, la problématique, c'est que justement, on n'est plus dans la prouesse dans la plupart de ces passages-là, et on n'est plus vraiment dans la prouesse technique, on est vraiment dans la volonté d'une prouesse de mise en scène, donc de raconter quelque chose. C'est-à-dire soit créer du suspense, soit mettre le spectateur dans aux côtés des personnages. Mais comme ça change en fait de point de vue en permanence, comme on passe d'un méchant au personnage de Tyler Rake, au personnage du gamin, au personnage, en fait, je pense que c'est conceptualisé à travers l'action, c'est-à-dire ce qui se passe à l'écran, plus qu'à travers ce qu'on cherche à raconter en fait à ce moment-là. Et en fait, ça fait partie des problématiques, et des problématiques aussi de ton, parce que moi, il y a un film en particulier auquel on n'a pas fait référence encore, qui me semble être une grosse source d'inspiration pour le film, et peut-être pour le coup pour les frères Russo, c'est Man on Fire de Tony Scott. Il y a un truc qui est assez étrange en fait dans tous les
studios. Excuse-moi, de Tony Scott et de Eli Shouraki aussi.
Oui, alors c'est le voilà, mais c'est parce que c'est tiré d'un roman, mais on ne fait pas un épisode sur Tony Scott et sur Man on Fire. Le truc en fait, c'est que ce que j'entends par là, et pourquoi spécifiquement celui de Tony Scott justement, c'est que déjà la démarche dont tu parles en fait, d'envoyer un personnage principal dans un univers qu'il ne connaît pas forcément, il y a de ça déjà avec le Mexique dans Man on Fire. Ensuite, il y a vraiment une logique de mort-vivant, on va dire, de personnage mort-vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre énormément de son passé et qui est à la recherche d'une certaine rédemption. Et là, je vais aller un peu plus loin et je vais spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, ou Man on Fire d'ailleurs, donc attention. Il y a tout un final en fait qui se passe sur un pont, sur lequel il y a une mort symbolique pour le personnage de Tyler Rake, avec peut-être éventuellement en plus une fin de finale en fait qui est laissée à la suggestion du spectateur, quoi. Et ça, c'est quand même assez étonnant, je trouve, de parce que Man on Fire, c'est un film qui est assez mature. C'est-à-dire que c'est un film qui a été porté, justement, en fait, tu précisais que c'était un film d'abord d'Eli Shouraki, mais dans les années 80, Tony Scott était déjà censé le réaliser. Et en fait, il a récupéré le projet presque 20 ans après pour, avec, je pense, la maturité de cinéaste qui est venue en place. Je pense que Man on Fire, dans les années 80, par Tony Scott, ça aurait pu ressembler à quelque chose comme Revenge. On peut pas savoir, hein, ça n'a pas été fait.
Non, mais c'était une boutade, hein. C'est vrai que s'il y a bien un film de Tony Scott qui me paraît éminemment incarné, tu vois, c'est bien celui-là, Man on Fire. Hein.
Oui. Mais ce que j'entends par là, justement, c'est que en fait cette façon d'incarner le film, je pense que ça a pris des années. En fait, c'est des années qui ont. C'est une bénédiction en fait qu'il ait pas pu le faire le film dans les années 80, qu'il l'ait fait finalement en 2004 sous l'égide du scénario de Brian Helgeland, etc., etc. Et du coup. C'est précisément, je trouve, ce qui manque justement à Tyler Rake. C'est-à-dire que, en gros, cette volonté de faire un film sérieux, alors qu'en fait, il est assez régulièrement caviardé de passages un peu lambda du cinéma d'action, comme on peut en voir dans le cinéma d'action actuel. Bah, ça dessert finalement cette façon de raconter le film dessert, je trouve, totalement le propos apparemment. Recherché par le film, quoi.
Oh non, c'est certain, mais après, je pense que ce dont je parlais tout à l'heure, ce que tu soulignais là sur les plans séquences, les scènes d'action, tout ça, Il y a effectivement, enfin, on voit quand on a des grands plans séquences, on peut parler notamment des Fils de l'Homme, tu vois, c'est effectivement des plans séquences qui, des Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, c'est effectivement des plans séquences qui sont basés sur le point de vue d'un personnage, quoi, tu vois, c'est-à-dire, il y a un vrai point de vue dans la scène. Là, moi, je pense que c'est pour ça que je parlais de démo de cascadeur, en fait, c'est qu'on multiplie les points de vue, on multiplie les environnements, on multiplie les types de cascades, c'est-à-dire cascade motorisée, cascade à main nue, tout ça. C'est à l'arrivée, c'est pour ça que j'emploie ce terme de démo cascadeur, parce que c'est vraiment ça. Tu prends cet extrait-là, et puis je pense que les cascadeurs qui ont fait le film, ils peuvent le proposer comme carte de visite sur des futurs projets, quoi. C'est ce dont ils sont capables. Après, de là, effectivement, à raconter une histoire, bon, ben, c'est une autre paire de manches, parce que effectivement, c'est un film. C'est un film qui se veut avoir une âme, qui se veut revendiquer une certaine, comment dire, ouais, une certaine gravité à travers le caractère un peu douloureux de son personnage, tu vois, quoi, tout ça, alors que c'est un gros truc de bœuf fini, quoi, vraiment, quoi. C'est-à-dire, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a frappé, hein. Juste, je termine là-dessus, Steph, mais il y a un truc qui m'a frappé dans le film, c'est le fait que, bon, ben, c'est bien, il a des idéaux louables, quoi, on va dire, le personnage, il tient à sauver ce gamin, tu vois, mais je veux dire... Je sais pas, il doit tuer 150 personnes quoi, pour y arriver dans tout le film. Et alors, de manière hyper barbare, quoi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, en fait, tu crois plus du tout, quoi, aux motivations du personnage. Tu te dis, le type, c'est juste un boucher, quoi, tu vois. C'est...
Voilà. Mais ce qui est d'autant plus... D'ailleurs, ça lui a reproché, je crois, dans le film, à un moment donné. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le film se voudrait aussi... Enfin, il revendique une certaine radicalité, c'est-à-dire qu'il y a deux trucs spécifiques, je pense à deux choses spécifiques, il y a notamment au début du film un gamin qui se fait tuer, qui se fait balancer par-dessus bord, quoi, par-dessus un toit, quoi, parce qu'il n'apporte pas la réponse qu'on lui demande, et ça c'est une scène qui est dans le film, même si on voit pas forcément les résultats de la chute, en fait on comprend que le gosse est mort, quoi.
Ouais.
Il y a aussi cette idée, en fait, de montrer justement que dans les rues de cette ville, en fait, bah, les gamins sont un peu laissés à eux-mêmes et ils doivent commettre des crimes pour s'en sortir, quoi, en fait, et appartenir à des gangs et des trucs comme ça. Donc ça fait partie des trucs où j'imagine que à un tel film avec un tel budget conçu dans un studio hollywoodien classique, ça aurait posé un problème. Là, c'est chez Netflix, donc je pense que ça va. Mais pour autant, cette radicalité-là, elle est assez constamment tempérée justement par effectivement ce côté démo technique, un peu, moi aussi, je sais faire ce que les copains savent faire, hein, c'est-à-dire le plan séquence. J'ai vu le plan séquence de mon pote sur Atomic Blonde, je vais refaire le même en trois fois plus long, trois fois plus grand, trois fois plus machin. Et surtout, il y a ce truc où. Et ça, alors je vais probablement faire un point Avengers là, hein, en l'occurrence, pour
allez, c'est parti.
Comment dire, voilà, pour faire un peu mousser les
réseaux sociaux.
Les fans de Marvel, mais en gros, il y a cette notion que ce plan final, en fait, où le personnage apparaît comme une espèce d'inception dans le regard du gamin, est-ce que le Tyler Hake est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant, et c'est vraiment laissé à l'interprétation du spectateur, c'est vraiment, en fait, je trouve, une méthode qui déjà contredit ce que le film essaye de raconter, c'est-à-dire vraiment le parcours... rédempteur du personnage, c'est-à-dire qui est prêt à aller jusqu'à la mort, en fait, pour sauver ce gamin. Mmh. Donc ça contredit ça en premier lieu. Et ensuite, le deuxième, c'est-à-dire que dans Man on Fire, l'issue, elle est claire, hein, elle est précise, quoi, elle est spécifiée, quoi. Là, non. Là, il est possible que potentiellement, si le film fonctionne, eh ben, en gros, Netflix récupère une franchise. Mais en plus, je trouve que c'est une méthode que les Russo répètent par rapport à ce qu'ils ont fait dans Avengers, quoi. C'est-à-dire, on sait très bien, tout le monde s'est posé la question, ceux qui pouvaient éventuellement être dupes, en fait, de comment ils allaient faire pour ressusciter les personnages à la fin d'Infinity War, en fait, tous ceux qui sont partis, bah, tout simplement en les faisant revenir, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de mort, en fait, dans les films Marvel. Et on n'est pas, on sait pas encore où va, on va dire, le MCU aujourd'hui, mais disons que faire mourir le personnage, là je spoil aussi le film en question dans Avengers Endgame, faire mourir le personnage de la Black Widow et en fait lui offrir un film, même s'il se passe un petit peu avant, un an après, pour moi c'est une manière en fait de démontrer que oui, il est mort, mais il n'est pas vraiment mort, quoi. Donc il est quand même là, en tout cas vous allez pouvoir le voir, quoi. Il est possible de faire des suites qui ne sont pas des suites, qui sont des préquels, etc., etc. Et du coup, en fait, je pense que tout ça, ça annule un petit peu cette logique-là. Et là où je suis étonné, on va dire, c'est que ça ne m'étonne pas que Marvel fonctionne comme ça dans l'absolu. Et c'est lié au comic book, éventuellement. C'est aussi lié à des études de marché et à ce qui plaît. Mais je suis beaucoup plus étonné que les Russo adoptent exactement finalement la même... le même fonctionnement sur un film comme Tyler Hake qui se voudrait, pour le coup, beaucoup plus radical, quoi.
Ouais, mais je pense qu'enfin, de toute manière, c'est un aveu, quoi, et enfin une signature, même, je dirais. Et c'est une manière d'envisager la fiction, parce que tu parlais de radicalité tout à l'heure, mais c'est vrai. Par exemple, il y a une scène aussi, moi, qui m'a bien fait marrer, quoi, où Chris Hemsworth, là, donc Thor, hein, qui latte des gamins, là, dans une ruelle, là, de la ville, là, des gamins de gang, là, des gamins des rues, là, comme les gamins dont tu parlais tout à l'heure. Et la séquence est finalement assez ridicule, mais cette manière de dire, ben, il meurt, mais il meurt peut-être pas, et qui est totalement assumée par les frères Russo, hein, ils l'ont dit récemment. Hein, j'ai vu une déclaration d'eux où ils disent voilà, c'est au bon vouloir du spectateur, s'il a envie que le personnage meure, bah, c'est ok, s'il a envie que le personnage meure pas, c'est ok aussi, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est une manière de produire de la fiction à destination du plus grand dénominateur commun, quoi, et de ne jamais faire de choix précis pour arriver à contenter tout le monde, quoi. Et ça, je pense que ça marche aussi avec ce genre de films de cascadeurs qui n'ont que du spectacle à proposer, mais qui n'ont jamais de point de vue, d'histoire dans laquelle immerger réellement son spectateur. Rien n'est grave, en fait. C'est juste du show-off. Et puis, vous inquiétez pas. Après, vous pourrez retourner à votre petite vie tranquillement. Voilà. Donc, sous ces dehors de radicalité bien soignée aux petits oignons, bien marketée, là, tu vois, c'est des films qui sont totalement inoffensifs, moi, je pense.
Oui, oui. En plus, le truc, c'est que cette notion, je trouve, encore une fois, je trouve que cette notion de... Ça me fait penser à une autre fin de film. Mais où je pense qu'ils n'avaient pas vraiment, je pense que Christopher Nolan n'avait pas vraiment le choix de jouer cette carte-là, et je pense que c'est au bon vouloir de ce que le spectateur veut y voir aussi, c'est celle de la fin de Dark Knight Rises, pardon, j'allais dire Dark Knight Returns, mais où en fait la question est posée de savoir si Batman, enfin Bruce Wayne en l'occurrence, a survécu ou pas, quoi. Et la plupart des gens comprennent qu'il l'a survécu. Mais moi je me rappelle que c'était un débat pour nous à l'époque de la sortie du film, parce que moi j'en suis pas persuadé, quoi. Et c'est un problème, parce que bon, évidemment je ne mets pas Christopher Nolan dans la même catégorie que les frères Russo, hein, c'est quand même quelqu'un d'un peu plus pour lequel j'ai un peu plus de respect en termes de cinéma, mais je pense qu'il avait exactement la même problématique, c'est-à-dire un studio qui l'a regardé en face et qui lui dit on peut pas tuer Batman, on peut pas tuer ce personnage là en fait, on peut pas le faire.
Oui, mais bon, c'est Batman, Stéphane aussi.
Oui, oui, d'accord. Bah, moi, je pense que justement, en sachant qu'en fait, un film avec Robert Pattinson qui arrive derrière, c'est possible de tuer Batman.
Ouais, mais je veux dire, tu ne décides pas dans un film, surtout dans un blockbuster à je sais pas combien de centaines de millions de dollars de budget, mais surtout, tu ne décides pas de tuer Batman comme tu déciderais de tuer Tyler Hake, tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. C'est
ouais, bien sûr.
Là, on parle de tuer un mythe moderne, quoi, tu vois, avec Batman. Donc, tu as conscience du caractère un peu blasphématoire de la chose quand tu rentres dans ce genre de considération. Alors que sur un film comme Tyler Hake, c'est pas le cas, quoi.
Oui, mais justement, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont vraiment besoin, sachant qu'en fait, un film comme bon, c'est totalement hypothétique, hein, ce que je te pose, mais le truc, c'est que, sachant qu'en fait, finalement, sur Netflix, tout fonctionne avec une logique d'algorithme, qu'il suffit d'associer Frère Russo plus Chris Hemsworth pour savoir que, en fait, les gens qui sont allés voir Thor ou les gens qui sont allés voir Avengers, en fait, on va leur proposer automatiquement un film comme Tyler Hake. Est-ce que, en fait, ils n'auraient pas tout à gagner, justement, à faire les films qu'ils ont à faire, quoi? Et en fait, tout simplement se baser sur ce genre de logique-là, sans forcément avoir à chercher une franchise, puisque en fait, la franchise, elle est définie presque, enfin, entre guillemets, par la logique de l'algorithme, c'est-à-dire par, c'est le mot Tyler Hake ou extraction ne prévaut pas en fait dans cette logique-là par rapport à ceux de Chris Hemsworth et frère Rousseau, quoi.
Bah, c'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont pu avoir, mais c'était induit par la situation à cette époque-là, mais ils ont pu avoir à leur début ce genre de velléité, tu vois. Ils ont produit de la série B, de l'actionneur série B, des trucs modestes qui souhaitaient simplement raconter une histoire. Moi, je pense à Willman, par exemple, à la production Joe Carnahan avec Frank Grillo, tu vois. Mais je pense que peu à peu, ça c'était maintenant il y a déjà quelque temps, quoi. Et je pense que peu à peu, Netflix... ils vont peu à peu se caler sur le moule hollywoodien tel qu'il a été redéfini ces dernières années, c'est-à-dire à aller chercher eux aussi des franchises, tu vois, des trucs comme ça. Bon, après, avec l'inconnu toutefois de la situation actuelle qu'on vit en ce moment, là, qui va sans doute rebattre les cartes de manière assez violente à Hollywood, quoi. Mais je pense que leur velléité, ces derniers, il y avait chez eux cette velléité-là, chez Netflix et chez d'autres plateformes concurrentes, de se caler sur ce système de production de franchise, quoi. Comme ça se passe à l'heure actuelle à Hollywood, quoi.
Ouais, mais c'est d'autant plus étonnant, je trouve, sur quelqu'un. Moi, j'aime bien Chris Hemsworth, hein, j'ai rien contre lui. Hein, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. On peut faire beaucoup de choses avec lui, j'imagine, quoi. Et malheureusement, ça, c'est pas forcément flagrant quand on voit les choix de ses films. Mais pour moi, en fait,
c'est un peu la misère, hein, sa carrière, quoi. Tu vois, je veux dire, effectivement, quand tu le voyais il y a quelques années dans Michael Mann. Black Hat, là, tu pouvais te dire, ah, il a du potentiel, le mec. Mais je veux dire, tu vois, toutes ces dernières années, tout ce qu'il a enquêté. Bon, alors, je parle même pas des Marvel, hein, je sais plus combien il en a fait. Mais les trucs aux SOS Phantom ou Men in Black, tu vois, les franchises. C'est, en fait, c'est le problème. C'est le problème qu'ont ces acteurs. Le truc aussi, là, le Blanche-Neige, là, où il jouait le chasseur, là, tu vois. En fait, c'est le problème qu'ont les acteurs à l'heure actuelle, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a une pénurie de projets originaux, de personnages originaux, et qui sont obligés de se rattacher comme ça, de prendre en route des franchises, quoi, d'embarquer dedans pour pouvoir avoir des succès, quoi, et en tout cas continuer à exister sur le marché, quoi.
Oui, mais justement, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il a. Il a une façon d'aborder ce personnage-là qui est fondamentalement plus ou moins la même que dans... même si lui j'imagine qu'il s'attache au personnage. Par exemple, il se trouve que le flashback en question du gamin, parce que c'est quelqu'un qui a perdu son enfant, le gamin, c'est son fils, en fait, dans le film, c'est son vrai fils. Donc voilà, donc j'imagine qu'il a toute une panoplie de trucs d'acteurs pour pouvoir s'impliquer dedans et rendre ça plus personnel pour lui. Mais fondamentalement, il joue ce personnage-là comme il le jouait, par exemple, le Troufion dans Horse Soldiers ou ce genre de choses, en fait. Donc c'est là où j'ai envie de dire, c'est un peu comme Liam Neeson, quelque part, il pourrait être une franchise à lui tout seul, tant qu'on le met dans un endroit où il bastonne des gens, quoi. Et c'est là où je trouve ça étonnant, en fait, que le manque de jusqu'au boutisme du film. Bon, alors, si j'ai bien compris, tu valides pas trop le film, Arnaud, quoi.
Non. Voilà. Non, pas vraiment. Voilà.
Non, mais j'ai cru lire entre les lignes que t'étais pas trop fan du film.
Bah, j'étais un peu en mission quand même sur ce film. Hein. Il y a un certain Stéphane Moïsakis qui m'a dit, bon, Arnaud, tu mates Tyler Reich, là, on va faire un podcast dessus. Donc moi, je m'exécute. Hein,
non, mais t'as raison de le préciser, parce que c'est vrai que, avec en plus le confinement, avec ce genre de choses et tout, c'est vrai que nous, on a enregistré quelques podcasts d'avance sur Stéroïdes, hein, avant en fait, qu'on rentre en confinement. Mais j'aime bien l'idée que, mine de rien, en fait, Stéroïdes parle du cinéma d'action d'hier et d'aujourd'hui aussi, quoi. Et donc, en fait, de l'actualité à proprement parler. Et bon, même si il se trouve que l'actualité en question n'est pas super exaltante, hein, à mes yeux, en tout cas, ce qui se passe dans le cinéma américain. Donc, du coup, voilà. Mais il me semblait que c'était quand même important d'en parler qu'on pouvait avoir quand même des choses à dire. La preuve, hein, ça fait quand même bientôt une demi-heure qu'on parle. Donc, voilà, quoi. Très bien. Merci, Arnaud.
Merci à toi, Stéphane.
Et à la prochaine pour Tyler Reich 2, Extraction 12. Extraction, c'est pareil, c'est quand même un titre un peu lambda aussi, quand tu réfléchis, parce qu'il y a même un Bruce Willis de Seconde Zone, en fait, qui s'appelle comme ça, qui est sorti il y a 4-5 ans. Donc,
oui, et puis c'est-à-dire c'est un truc programmatique, un peu. C'est-à-dire, si tu déclines, si tu franchises le truc, c'est, ah, chaque film, il y a une extraction à faire, quoi, tu vois, quoi, voilà.
Ouais. Très bien, merci beaucoup, Arnaud.
Merci à toi, on reste en contact.
À la prochaine. On reste, ouais, et tout ça, tout va bien.
Tout va bien. Bon, on voit des films d'action, ça va.
Voilà. Bon, merci, et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur, sur tous les réseaux sociaux habituels, hein, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et aussi, en fait, évidemment, vous pouvez nous écouter sur toute votre plateforme musicale de choix. Et puis moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.